Vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, je vous emmène au Cameroun pour une histoire de Gérald Durel, un cadeau royal. Le fond, c'est ainsi qu'est nommé le roi de Bafour, territoire du Cameroun, me conduisait hors de son domaine à 3 kilomètres environ en descendant la chaussée. Il s'engagea ensuite dans les champs de maïs. Il marchait bien et faisait tournoyer son javelot en fredonnant. De temps à autre, il se retournait vers moi en souriant d'un air gamin et ravi. Puis nous quittâmes les champs pour traverser un petit bois de palmiers, sombre, mystérieux et rempli du murmure des larges feuilles. À la fin, ce fut la montée le long des pentes dorées. Lorsque le fond eut atteint le sommet, il s'arrêta, planta son javelot dans le sol et contempla le paysage les bras croisés. J'avais fait une halte en chemin pour ramasser quelques chenilles aux couleurs délicates, et quand je le rattrapais, il semblait en extase. Il soupira profondément et, se tournant de mon côté, les bras largement ouverts, « C'est mon pays, » dit-il. « Beau ce pays !» Je fis un signe affirmatif et nous restâmes quelques minutes silencieux, contemplant le panorama. À nos pieds s'étendait une mosaïque de petits champs, verts, argentés ou brun clair, interrompus par des plantations de palmiers et çà et là, par une tache rose foncée quand la terre était fraîchement retournée. Cette petite surface labourée avait l'air d'un mouchoir de couleur qu'on aurait étalé par terre et oublié. Elle semblait battue par les vagues d'un océan de montagnes, aux cimes dorées par le soleil couchant, et dont les vallées émergeaient encore de l'ombre. Le roi promenait lentement son regard tout autour de nous, et son visage exprimait un mélange d'attendrissement et de joie enfantine. Il poussa un nouveau soupir, un soupir de profonde satisfaction. « Beau !» murmura-t-il. Puis il reprit sa pique et nous descendîmes le long de la vallée la plus proche, tandis qu'il fredonnait. Cette vallée était plate et unie, avec un bois épais de petits arbres rabougris, dont certains ne dépassaient pas 3 mètres. Quelques-uns d'entre eux étaient complètement cachés sous un manteau luxuriant de plantes grimpantes, qui leur donnait l'aspect de tours massives, faites de feuilles tremblantes et de fleurs couleur d'ivoire. La vallée avait emmagasiné la chaleur de la journée, et l'air tiède était chargé du parfum des fleurs et des feuilles. Des milliers d'abeilles qui butinaient dans les fleurs faisaient entendre leur bourdonnement monotone. Un petit oiseau inconnu emplissait la vallée de ses trilles mélodieux. Puis il se tut subitement, et le seul bruit qui persista fut le murmure confus des abeilles qui volaient autour des arbres ou plongeaient dans les corolles des fleurs. Le roi examina tout cela un instant. Ensuite, il traversa les herbes pour gagner son point de vue favori, où le regard était moins gêné par les plantes grimpantes. « D'ici, nous verrons du gibier, » murmura-t-il en désignant les arbres. « Asseyons-nous et patientons un petit moment. » Il se laissa tomber sur le sol et attendit, détendu et immobile. J'étais assis près de lui, observant tantôt le roi, tantôt les arbres. Comme rien ne bougeait dans la ramure, je concentrais mes regards sur mon compagnon. Il tenait la pique toute droite dans ses grandes mains, son visage exprimant une attente passionnée, comme un enfant au théâtre avant le lever du rideau. En sortant de la petite cabane sombre de Bafour, il avait, c'était évident, quitter avec ses vêtements et ses insignes officiels cet air de domination qui semblait tant faire partie de sa personnalité. Ici par contre, l'arme à la main et assis par terre, dans cette vallée tranquille et chaude, on aurait dit un chasseur comme les autres. ses yeux vifs, de couleur sombre, fixés sur les arbres, attendaient la proie qu'ils étaient sûrs de voir paraître. Et comme je l'observais, je compris que ce roi n'était tout de même pas comme les autres chasseurs. Il émanait de sa personne une sorte de mystère. Et je sentis soudain ce que c'était. Un chasseur ordinaire serait resté à attendre patiemment en trouvant le temps long, ce qu'il avait dû faire souvent dans sa vie. Mais le roi avait les yeux brillants, un léger sourire sur sa grande bouche. On voyait qu'il se réjouissait de tout son cœur. Je songeais que, par le passé, il avait dû avoir souvent le dégoût de ses conseillers très déférents, de ses sujets en adoration devant lui. Combien ses somptueux vêtements lui avaient semblé chauds et pesants, et ses souliers pointus trop étroits et gênants. Alors il avait sans doute éprouvé le besoin de sentir sous ses pieds la terre rouge et molle, et le vent sur son corps nu. C'est ainsi qu'il s'en allait dans sa cabane, mettait ses habits de chasseur, et gagnait les hauteurs en faisant des moulinets avec sa pique, tout en fredonnant. Puis il s'arrêtait pour admirer le beau pays sur lequel il régnait. Et je me rappelais les mots qu'il venait de me dire. Quand un homme chasse avec ses yeux, son nez et son sang, il ne devient jamais trop vieux pour aller dans le taillis. Mes réflexions à ce sujet furent interrompues, car le roi se pencha en avant, me saisit par le bras, et de son long doigt me désigna les arbres. Je regardai ce qu'il m'indiquait, et d'abord je ne vis rien qu'un fouillis de branches. Puis quelque chose remua, et j'aperçus l'animal que nous avions attendu. Il passait entre les rameaux entrelacés avec la grâce légère, éthérée, d'une plume volant au vent. Quand il s'approcha, je m'aperçus qu'il était exactement comme je me représentais le galago. Son pelage vert grisâtre, sa queue large et touffue, ses mains roses d'une grosseur relative, avec des doigts très longs et pointus, ses oreilles si grandes et minces qu'elles semblaient transparentes. D'ailleurs, ses oreilles paraissaient avoir une existence personnelle, car elles s'abaissaient et se redressaient indépendamment l'une de l'autre. Parfois, elles se repliaient et s'aplatissaient contre la tête comme des éventails, puis se relevaient en pointe. La face de cette petite bête était animée par d'énormes yeux noirs. Et par-dessus tout cela, l'animal pouvait tourner le cou et regarder derrière lui comme un canard. Il courut jusqu'à l'extrémité d'une branche, s'y tint perché, se cramponnant à l'écorce de ses longs doigts et regardant en bas de ses grands yeux, tout en poussant de doux roucoulements. Je savais que c'était un galago, mais il avait plutôt l'air d'un être fabuleux. Perché sur une branche, il chanta quelques minutes. Puis il se produisit une chose étonnante. En un instant, les arbres furent pleins de galagos. Il y en avait de tout âge et de toute grosseur, des plus petits, gros comme une noix, jusqu'aux adultes qui auraient pu tenir à l'aise dans un verre à boire ordinaire. Ils sautaient de branche en branche, attrapant de leurs longues mains fines les feuilles et les rameaux, roucoulant doucement ensemble et regardant autour d'eux de leurs immenses yeux innocents comme ceux d'un chérubin. Les tout-petits, qui semblaient n'être composés que d'yeux, se tenaient serrés contre leurs parents. Ils se dressaient parfois sur leurs pattes de derrière et levaient leurs mains minuscules, les doigts largement écartés, comme s'ils étaient indignés de voir tout le désordre des feuilles autour d'eux. Un des tout-petits découvrit, pendant que je le regardais, qu'il était perché sur la même branche une grosse et savoureuse sauterelle. C'était le soir, et l'insecte devait être endormi, car il ne s'aperçut du danger que trop tard. Avant qu'il eût réagi, le petit galago avait longé la branche et saisi l'insecte par le milieu. Brusquement réveillée, la sauterelle comprit qu'il lui arrivait quelque chose. Elle était presque aussi grosse que le petit animal et possédait une paire de longues pattes de derrière charnues, avec quoi elle se débattait furieusement. C'était passionnant de suivre ce combat. Le galago, de ses longs doigts, serrait désespérément la sauterelle, s'efforçant de la mordre. À chacune de ses tentatives, l'insecte donnait de grands coups avec ses pattes de derrière, faisant perdre l'équilibre à l'adversaire qui tombait de la branche, mais retenu par les pieds, restait à se balancer un peu plus bas. Comme cela se produisit plusieurs fois, j'en conclus que le galago devait avoir des ventouses aux pieds. Même pendu la tête en bas, et recevant dans l'estomac les coups furieux de la sauterelle, il gardait ses yeux innocents. Le combat eut une issue fort inattendue. Les lutteurs étaient suspendus la tête en bas, l'insecte porta un coup très violent, les pattes du galago lâchèrent l'arbre, et les deux adversaires tombèrent étroitement enlacés à travers le feuillage. Dans la chute, une des mains du galago lâcha sa prise pour saisir bien vite une branche au passage avec toute la souplesse d'un acrobate. Il s'élança sur la branche et coupa de ses dents la tête de la sauterelle. Bientôt après, la vallée s'emplit d'ombre et l'on ne put distinguer les galagos d'entre les feuilles. Mais nous entendions encore leur gazouillis. Nous nous levâmes, engourdis par la position peu confortable, et reprîmes le chemin de la maison en remontant la colline. Sur le sommet, le roi regarda les bois au-dessous de nous avec un sourire d'extase. « Cette viande, » dit-il en riant sous cape, « comme je l'aime. Ils sont si drôles qu'ils me font toujours rire. » « Belle viande, fiche, comment l'appelles-tu »« Abat-four, dit le roi, nous l'appelons shilling. Crois-tu que mes chasseurs pourront un jour en prendre ?»« Demain tu en auras, » promit le fond. Mais il ne voulut pas me dire comment on les prendrait et qui le ferait. Nous atteignîmes Bat-four le soir au crépuscule, et quand le roi eut revêtu des habits conformes à son rang, il vint à moi et nous bûmes ensemble. En lui souhaitant bonne nuit, je lui rappelais sa promesse de me procurer quelques galagos. « Oui, mon ami, je n'oublierai pas, » dit-il. « Je te procurerai des shillings. » 4 jours s'étaient écoulés, et je pensais que le roi avait oublié sa promesse, ou que les animaux étaient plus difficiles à attraper qu'il ne l'avait cru. Et puis le 5e jour, au matin, quand on m'apporta le thé, il y avait sur le plateau un petit panier multicolore. À demi endormi, je soulevai le couvercle. Alors 4 paires d'yeux énormes, humides et innocents, me regardèrent, doucement interrogateurs. C'était un panier plein de shillings, un cadeau de roi. Moi, j'aurais cru que le narrateur se contenterait de la belle vision qu'il avait eue de ces animaux dans la nature. Pourquoi les attraper? Autant les laisser vivre. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt. Merci Roland à la technique. Au revoir.